Radio Vatican, France-Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. L'Église catholique au Tchad refuse de faire de la figuration et se retire du dialogue national. La conférence épiscopale tchadienne l'a fait savoir dans une déclaration rendue publique le 16 septembre dernier. L'actualité sociopolitique africaine sur le continent nous conduira en Tunisie, en Afrique du Sud, au Niger, entre autres. Également, dans cette édition, vous entendrez le premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Dans une interview accordée à Radio Vatican, le chef du gouvernement ivoirien revient sur des sujets abordés par le président Alassane Ouattara lors de ses entretiens au Vatican le samedi 17 septembre dernier.
Radio Vatican, France-Afrique, Françoise Niémier.
Avant le développement des titres de cette édition, sachez que les funérailles d'État de la reine Elisabeth II ont eu lieu lundi. C'était une cérémonie grandiose en présence de centaines de chefs d'État, de gouvernement et de têtes couronnées. Le pape François était représenté à ses obsèques par Mgr Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Dans une déclaration datée du 10 septembre et rendue publique le 16 septembre dernier, la conférence épiscopale de ce pays a annoncé le retrait de sa délégation officielle au dialogue national inclusif et souverain. Face aux dysfonctionnements persistants, l'Église catholique du Tchad refuse de continuer à faire de la figuration. Le compte rendu de Séverin Dingatonoum.
Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? C'est avec cette parole du psalmiste que les évêques délégués de la conférence épiscopale du Tchad ont introduit la déclaration de leur retrait définitif aux travaux du dialogue national inclusif et souverain. Et ce, après plus d'une semaine de leur suspension aux séances du dit dialogue. Selon le constat des prélats, le dialogue national inclusif et souverain dans sa forme et dans sa gestion était mal parti et bon nombre de participants en ont été frustrés. Nous nous sommes rendus compte d'une certaine volonté de mainmise d'un groupe sur ce processus, alors qu'il devait être un exercice d'écoute réciproque dans le respect mutuel, ont-ils écrit. Toutefois, les évêques ont continué avec les autres leaders religieux et aînés le travail de médiation afin de redonner au dialogue son caractère inclusif. Malheureusement, écrivent-ils, et je cite, « Après une semaine de suspension et d'efforts pour aplanir les obstacles, afin de permettre à ceux qui sont du dehors de rejoindre ceux qui sont dedans, nous réalisons que les conditions d'écoute mutuelle ne sont pas remplies et les travaux du dialogue continuent comme avant, malgré l'absence des autres acteurs. Alors nous ne jugeons pas opportun de continuer à faire la figurative. Nous nous retirons du dialogue national inclusif et souverain. » Fin de citation. Les évêques concluent leur déclaration en marquant leur disponibilité à porter toujours en prière les participants à ce dialogue afin d'œuvrer pour une véritable inclusivité à ce grand rendez-vous. Séverin Dingatolom pour Radio Vatican.
L'actualité sociopolitique africaine à présent. En Tunisie, le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, et l'un de ses adjoints, l'ex-premier ministre Ali Larraed, ont été convoqués pour interrogatoire lundi par le pôle antiterroriste en lien avec l'envoi de djihadistes en Syrie et en Irak. Le parti Ennahda est soupçonné par ses détracteurs et une partie de la classe politique d'avoir facilité le départ de ces djihadistes vers les zones de conflit, ce que le mouvement dément catégoriquement. Dans un communiqué publié dimanche, Ennahda a mis en garde contre les tentatives du pouvoir d'instrumentaliser la justice pour ternir ses opposants et les impliquer dans des affaires fabriquées. Au Niger, les fortes pluies qui s'abattent depuis juin et les graves inondations qu'elles engendrent ont fait au moins 159 morts et plus de 225 000 sinistrés, faisant de cette saison des pluies l'une des plus meurtrières de l'histoire dans ce pays au climat habituellement sec. Selon les chiffres des services de la protection civile communiqués lundi, au moins 159 décès ont été enregistrés et 185 personnes ont été blessées et plus de 225 000 personnes sinistrées. Le bilan de ces intempéries s'aggrave de semaine en semaine. Les services météorologiques annoncent de nouvelles fortes pluies jusqu'à la fin du mois de septembre. L'Afrique du Sud est une nouvelle fois frappée par des coupures drastiques d'électricité causées par des défaillances d'installations vieillissantes. vieillissante et mal entretenue, a indiqué dimanche la compagnie publique Eskom. Lors d'une conférence de presse, le PDG d'Eskom, André de Ruyter, a présenté des excuses pour ces nouvelles coupures intenses d'électricité et a annoncé un niveau élevé de délestage cette semaine dans le pays. Retour dans cette édition à l'audience que le Saint-Père avait accordée samedi au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au palais apostolique du Vatican. Le président ivoirien, après cette audience avec le Saint-Père, a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, accompagné de Mgr Paul-Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales, à la secrétaire d'État. À l'issue de ces rencontre, le premier ministre ivoirien Patrick Achi a bien voulu revenir dans une interview accordée à Radio Vatican sur certains points abordés. Dans cette première partie de l'interview que nous vous proposons, le chef du gouvernement ivoirien évoque les questions des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire avant d'aborder la question de la réconciliation nationale. Bonjour à vous, monsieur le premier ministre.
Bonjour.
Et merci d'accorder cette interview à Radio Vatican. Monsieur le Premier ministre, plus de 50 ans de relations bilatérales, quelle est votre analyse, quel bilan d'abord faire de cette relation entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire?
Donc, ces relations sont extrêmement positives, hein, comme vous le savez. Elles datent déjà du président Félix Houphouët-Boigny, avec lequel on a eu donc trois visites du pape en l'espace de 15 ans. Durant toute cette époque-là, l'important acte posé par le président Félix Houphouët-Boigny à travers l'édification de la basilique, et donc qui est aujourd'hui un territoire du Vatican. Mais au-delà de cela, les relations pour maintenir le dialogue, la paix, qui était une philosophie du président Houphouët, non seulement dans le pays, dans le sous-continent, mais dans le monde entier, qui est également le credo du pape lui-même. Donc ces relations sont excellentes. Le cardinal Parolin était à Abidjan. À cette occasion-là, un timbre pour le cinquantenaire a été mis avec la photo donc du Saint-Père, le pape François et de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et également, il y était parce que nous avons eu l'immense plaisir d'avoir un des nôtres, Monseigneur Jean Sylvain Miamambé, qui a été nommé nonce apostolique au Mali par sa sainteté le pape François, et qui a été consacré à Abidjan par le secrétaire Parolin. Donc, les relations sont vraiment très, très bonnes au beau fixe.
Et également, la question de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous avez également mentionné les actions posées par le président Alassane Ouattara, avec le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, les rencontres entre ses prédécesseurs et la libération tout dernièrement des terres proches de l'ancien régime. Pensez-vous que ces actions sont assez suffisante pour parler aujourd'hui de paix retrouvée en Côte d'Ivoire?
Je crois que c'est l'opinion, en tout cas, de la communauté internationale qui porte un regard sur la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire et de son évolution depuis 2011. En dehors des actions qui ont été menées sur la mise en place d'un certain nombre de cadres organiques comme la CDVR. Il y a beaucoup d'actions qui ont été entreprises, mais au-delà, je dirais dans le quotidien, les actions qui ont été menées amènent tout le monde à reconnaître qu'on a atteint quand même un niveau aujourd'hui où on peut considérer que la paix est retrouvée. Voilà. Maintenant, il faut bien séparer les questions liées aux politiciens et les questions liées aux populations. Quand vous êtes aujourd'hui à Abidjan ou à l'intérieur du pays et que vous regardez les personnes vivre, vous rendez bien compte qu'on est arrivé à une situation de normalité, manifestement. Maintenant, la politique, c'est d'émettre des idées différentes, parce que les personnes appartenant à des partis politiques différents ont, sur le développement ou sur diverses questions différentes, des positions qu'ils font valoir. Mais faut dissocier ces différences de point de vue et le débat qui s'instaure d'idées à travers ces personnes avec la situation de populations qui vivent au quotidien et qui, eux, ont besoin d'avoir des conditions de vie qui s'améliorent, une situation qui s'améliore. Vous savez qu'à l'occasion de cette visite-là, le Saint-Siège a bien voulu organiser une messe d'action de grâce spéciale pour prier pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. Donc eux aussi, la perception qu'ils en ont, et le retour, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la paix a été retrouvée, et ils ont prié pour que cette paix soit renforcée, parce que justement, le cardinal Paroline, qui donc officiait cette messe, a indiqué, et je crois que c'est quelque chose de très important, que la paix se construit au quotidien et n'est jamais un acquis définitif. Et je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Oui, la paix est revenue, mais dans tout pays, la paix est fragile si chaque jour, on ne pose pas des actes qui, je dirais, consolident cette paix. C'est une œuvre collective pour un pays dans lequel la paix profite à tout le monde, parce qu'il permet d'attirer des investisseurs privés, parce qu'il permet à chacun de mener ses activités et à vivre et à se développer dans un environnement que tout le monde recherche. Donc je crois que oui, aujourd'hui, on peut estimer qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un environnement apaisé qui est reconnu de la majorité des Ivoiriens et de la quasi-totalité des pays, je dirais, extérieurs qui regardent la Côte d'Ivoire et qui voient comment elle a évolué au cours des 10 dernières années et toutes les actions que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a menées et continue de mener toujours pour que cette paix que nous avons retrouvée puisse se renforcer et puisse continuer le plus longtemps possible.
Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui sera fait pour consolider cette paix, pour ne pas donner l'impression d'une paix éphémère ?
D'abord, cette impression-là, moi, je crois personne n'a l'impression d'une paix éphémère. Peut-être que de loin, c'est le sentiment que vous avez, mais si vous avez l'opportunité d'aller, je dis, en Côte d'Ivoire et de vivre au quotidien dans les milieux urbains, ruraux, dans les quartiers, dans les cours, chaque jour, ceux qui viennent au travail, personne n'a un sentiment de non-paix. Nous qui avons connu des périodes difficiles, je dirais post-conflit, de 2011-2012, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. On peut donc considérer qu'on est dans un pays apaisé. Maintenant, nous tous, il faut que nous ayons vis-à-vis l'un de l'autre un esprit de tolérance, un esprit de partage, un esprit d'écoute et une volonté affichée de tous de préserver ce que nous avons d'essentiel, qui est la stabilité de notre pays pour qu'il puisse se développer et que les richesses qui émanent de ce développement-là puissent profiter à tous, non seulement à nous, mais également, je dirais, à la génération suivante. Donc je crois qu'il faut se féliciter de l'effort qui a été fait, du chemin parcouru par tous les Ivoiriens, le président, le gouvernement, mais également tous les acteurs qui ont conclu à cette paix. Il faut se féliciter de ça et ensemble faire tout pour que nous le préservions, plutôt que toujours d'être en train de se dire « c'est pas fini, il y a quelque chose à faire ». Il y a toujours quelque chose à faire partout.
Voilà le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi qui revenait sur des questions abordées lors de la visite du président Alassane Ouattara au Vatican.
Vaccin pour tous.
Restons en Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci de vaccins pour tous et nous donnons la parole à Marcel Ariston-Blé qui s'interroge sur les personnes à vacciner contre la COVID-19 au sein de la famille.
La COVID-19 étant une maladie infectieuse, son virus se propage plus facilement en intérieur et dans les espaces bondés. Les circonstances de vie dans une famille pourraient être un facteur non négligeable mettant en danger les membres de la famille si une personne venait à contracter la maladie. Des chercheurs chinois ont découvert que le taux de contamination chez les contacts familiaux étant d'environ 16,3%, ce que signifie qu'une personne atteinte par la COVID-19 aura une chance sur 6 de transmettre le coronavirus aux autres membres de sa famille. Pour tous ces faits cités, les professionnels de la santé recommandent aux membres de la famille de se faire vacciner. En le faisant, ils se protègent eux-mêmes, les autres et permettent aussi de casser la progression du virus. La vaccination n'étant pas encore obligatoire en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé recommande vivement aux populations de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement, à savoir le lavage régulier des mains, le port du cache-nez, bien ventiler les pièces et tousser dans le coude replié ou dans un mouchoir.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Nyamia. Merci de l'avoir suivie en notre compagnie. À très bientôt. Thank you.
Kembo, 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 eh.
Oh, Kembo, Kembo,
oh, Kembo.
Oh, Kembo, Kembo,
oh, Kembo. Oh, Kembo, Kembo, oh, Kembo. Oh, Kembo, Kembo, oh, Kembo. Toko embela yo, toko kumbamela yo, toko tonga.